Et dans le club des idées d'Europe 1, va maintenant plonger, comme chaque soir, dans les archives d'Europe 1. 3 minutes pour comprendre, pour éclairer l'actualité, ça s'appelle le jour où.
On essaiera un jour de faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà.
Europe 1. Bonsoir Jean-Sébastien Soldaini.
Bonsoir.
Ce soir, vous revenez sur la fatwa contre Salman Rushdie. Fatwa provoquée, on s'en souvient, par son livre « Les versets sataniques ».
Oui, c'est une tête mise à prix au nom de Dieu. 21 500 $, pas sur une affichette comme au Far West, c'est par un communiqué lu sur une radio de Téhéran que l'ayatollah Khomeini appelle, je cite, « tous les musulmans zélés à exécuter rapidement l'auteur des versets sataniques ». Cette fatwa, c'est un décret religieux, pas une condamnation, mais ça y ressemble. Si bien que l'auteur du livre est forcé de changer 56 fois d'adresse en 6 mois, pas de quoi le déstabiliser quand Jean-Bernard Cadier l'interroge pour Europe numéro 1.
Il faut renoncer le fatwa de Khomeini, dire qu'il n'y a pas d'argent qu'on offre pour ma mort.
Est-ce que vous avez peur ?
À ce moment, non.
Cette fatwa contre Salman Rushdie n'a pas de limite territoriale. L'ayatollah Khomeini veut faire appliquer sa loi partout dans le monde et voici ce que Jean-Daniel en dit dans un édito sur notre antenne.
On a eu l'air d'entendre un conte médiéval récité par un sorcier dans les souks obscurs et magiques d'une ville du Proche-Orient. Cela dit, comment expliquer le bruit, l'émotion, la fureur et quelquefois aussi le doute suscité par cette ridicule démesure.
La démesure, Jean-Sébastien, c'est bien ce qui caractérise cette fatwa et ses suites.
Exactement, parce que cette fatwa, comme le souligne l'équivalent des grandes voix de l'époque, Serge-Julie Alain Duhamel, intervient bien tard.
Ce livre sort en septembre 88 à Londres. Et le premier acte qui est pris n'est pas pris par le régime de Khomeini. Il est pris par l'une des plus grandes démocraties du monde, à savoir la démocratie indienne. Qu'il y a ensuite des manifestations en Grande-Bretagne, en Arabie Saoudite.
C'est vrai que non seulement Khomeini dans cette affaire est médiéval, mais que par-dessus le marché, il est en retard de 3 trains.
En retard, mais c'est lui qui met le feu. Les manifestations dans les autres pays ne faisaient quasiment pas de bruit, malgré les dénonciations de blasphème, les livres brûlés. Le guide suprême iranien mondialise l'affaire en quelque sorte et exploite le livre pour poser l'Iran chiite en défenseur numéro 1 de l'islam face à l'influence grandissante de l'Arabie sunnite. Et la preuve que l'ayatollah Khomeini instrumentalise l'affaire, c'est lorsque Salman Rushdie présente ses excuses. Ça ne change rien du côté de Téhéran. C'est comme cela qu'André Rousseau, alors correspondant d'Europe 1 à Londres, analyse la fin de non-recevoir de Khomeini.
L'attitude de Rushdie, en fin de compte, importe assez peu. Cette affaire est le prétexte saisi par les durs du régime islamique pour déstabiliser et affaiblir les modérés en vue de la succession de l'ayatollah Khomeini.
Alors, Khomeini est mort 4 mois plus tard, mais sa fatwa est toujours d'actualité et elle sert même de baromètre aux tensions en Iran.
Plus de 30 ans après, cette fatwa n'a toujours pas été levée. C'est impossible de lever une fatwa dans la tradition chiite. Donc elle existe toujours. Certains gouvernements modérés ont tenté d'apaiser les choses. Le président Khatami avait dit qu'il n'encouragerait plus les appels au meurtre de Salman Rushdie. Mais entre-temps, des conservateurs l'ont réactivé par le biais d'une fondation. La récompense n'est plus de 21 000 $, mais de 3,5 millions de dollars.
Eh bien merci beaucoup. Le jour où, ce soir avec Jean-Sébastien Soldaini sur Europe 1.
Europe 1, Isabelle Millet.